Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le transfert des djihadistes de Syrie vers l'Irak a commencé.
Oui, ces combattants djihadistes détenus par les Kurdes dans des camps du nord-est de la Syrie se sont rappelés au souvenir des gouvernements européens et notamment français quand l'offensive turque dans la région a bien failli les soustraire de leur surveillance par les forces kurdes. En France, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian dit œuvrer à un accord avec l'Irak pour que ces djihadistes y soient transférés et jugés. Sauf qu'avant même tout accord, les transferts ont déjà commencé. C'est ce que vous avez découvert lors d'une enquête de terrain. Bonjour Inès Daïf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous revenez juste d'Irak. Vous étiez cet été dans le Kurdistan syrien. Vous rédigez une thèse en droit international depuis 2 ans sur la Fédération démocratique du Nord-Est syrien. Et j'imagine que de fil en aiguille, vos recherches vous ont emmené sur des terrains auxquels vous n'aviez peut-être pas songé au début en vous lançant dans votre thèse. Alors la question des djihadistes détenus dans le Nord syrien, avant de parler de leur transfert vers l'Irak, de qui parle-t-on ? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de djihadistes toujours retenus dans le Kurdistan syrien après l'offensive turque?
Alors tout à fait. Alors aujourd'hui, cela concerne 400 djihadistes, hommes, femmes et enfants, donc ressortissants français, donc qui sont détenus dans le nord-est syrien, donc chez les Kurdes, par les Kurdes syriens, dans des prisons pour les hommes et dans des camps pour les femmes. Et alors pour une précision, un document officiel qui avait été rendu public en avril faisait état de à peu près 260 ressortissants français qui d'ailleurs devaient être rapatriés à ce moment-là. Donc un document, une liste qui prévoyait un rapatriement de la part du ministère des Affaires étrangères. Donc ça c'était durant la bataille, enfin la fin de la bataille de Barouz, qui était le dernier réduit donc de l'État islamique.
Parce que dans un article que vous avez publié avec votre collègue journaliste Stéphane Kenek, qui s'est lui aussi rendu régulièrement dans cette zone avec vous, alors vous citez plusieurs sources, irakiennes et kurdes, qui affirment qu'au tout début de l'offensive turque, un convoi de prisonniers a été acheminé depuis le Kurdistan vers l'Irak. Quel genre de convoi? Combien était-il? Quelle nationalité?
Alors, il s'agirait d'un convoi de 50 djihadistes européens et asiatiques. Au sein des Européens, il y aurait donc des Français. Une autre source plus récente a exprimé le nombre de 6 à 12 Français, donc leaders transférés du nord-est de la Syrie vers l'Irak.
Leaders, c'est ce que disent leader, vos sources, ce
donc
sont
voilà,
des
toutes les sources,
prisonniers de haute valeur, on
exactement,
vous dit.
Voilà, exactement, donc des leaders de l'État islamique. Donc comme par hasard, un transfert concomitant donc au départ de l'offensive turque, donc une mise peut-être en protection de ces leaders, vu que la situation sécuritaire allait se dégrader au fur et à mesure des semaines.
Pour les emmener où? Peut-être par la route jusqu'à Erbil, au Kurdistan syrien, comme ça s'était fait
exactement,
au début de
l'année. Ils transitent en permanence via Erbil et ensuite ils sont transférés à Bagdad où ils seront jugés par une cour fédérale.
Et ce, alors qu'il n'y a pas encore d'accord officiel entre Paris et Bagdad. Très récemment, il y a une dizaine de jours, Jean-Yves Le Drian s'est rendu à Bagdad pour en parler avec ses homologues irakiens. Il a parlé d'une coopération prochaine, pas d'une coopération en cours.
Exactement. Donc en fait, ce transfert s'est fait indirectement, antérieurement à la venue du ministre, exactement.
Et est-ce qu'il a pu se faire sans que la coalition en soit informée, par exemple?
Alors non, justement, les sources irakiennes du renseignement, enfin kurdes et irakiennes, gouvernementales, expriment que justement c'est la coalition, comme le dernier transfert qui avait eu en début d'année, ce transfert a été mis en place, commandé et géré par la coalition.
Alors que la version officielle française, c'est l'opération a été conduite uniquement par les forces démocratiques syriennes et les services irakiens d'enseignement.
Exactement. Alors ça, c'était la version officielle pour le transfert de début d'année.
Et là, cette fois, est-ce que vous avez réussi à obtenir des informations, à les joindre là-dessus?
Du côté du ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas de démenti direct, mais pas plus de détails qui ont été transmis.
Alors Inès Daïf, ce qui a dû rendre l'opération plus délicate qu'elle ne l'est déjà sur le principe, c'est qu'à la fois, les troupes turques approchaient alors, juste avant que ce convoi ne parte. Mais en plus, en Irak, où ces djihadistes ont été transférés, des manifestations ont lieu depuis plusieurs semaines. Le gouvernement est sans doute concentré sur la situation intérieure.
Exactement. Donc en fait, justement, ce qui ressort, c'est que le gouvernement irakien n'a pas forcément l'envie de juger une manne aussi importante de djihadistes étrangers, parce qu'il n'est pas question que des djihadistes français. Et vu la situation donc actuelle avec les soulèvements sociaux avec le nombre de morts assez conséquent et également la question de la porosité des prisons donc en Irak.
Qui n'ont pas fait l'objet de restauration depuis les grandes évasions du début des années 2000.
Exactement, 2013-2015 à Abu Ghraib. La question maintenant se pose sur la sécurité justement des djihadistes français qui seront sans doute, comme les 13 derniers, enfin les 11 actuellement condamnés à mort, qui seront incarcérés dans ces prisons. Et donc là, ce que demande le gouvernement irakien est, comme lors du premier transfert, des échanges, des donations pécuniaires ou encore des donations en armement, voire des donations aussi technologiques. Donc là, on arrive en plus à des deals qui sont quand même, au regard du droit international, pas forcément très, très adaptés. Donc,
Et ça se négocie comment d'ailleurs, une compensation financière pour garder, surveiller un combattant djihadiste?
Alors, une source nous a expliqué qu'un combattant djihadiste pouvait se monnayer entre 1 voire 2 millions de dollars.
Pour une année, pour un mois, pour
là, c'est pour la gestion du jugement.
Un forfait.
Exactement. Et la problématique, c'est que là, on n'est plus face à 11 djihadistes français, ce sera 60, plus également les familles. Alors les familles, il n'y a même pas d'information exacte, enfin les femmes et les enfants, il n'y a pas d'information sur comment exactement la prise en charge pourrait se faire.
Parce qu'il y a aussi eu des transferts, il y avait des femmes et des enfants
pour l'instant,
dans ce
non, mais
transfert.
En tout cas, non. Alors, pour l'instant, non, mais en tout cas, le ministre Le Drian recherchait le transfert global donc des djihadistes hommes ainsi que des familles vers l'Irak.
Alors c'est un transfert qui a eu lieu alors même qu'une rapporteuse spéciale de l'ONU, qui s'appelle Agnès Callamard, que vous connaissez bien en tout cas, avec qui du coup vous prenez aussi des informations, a pris l'initiative à plusieurs reprises d'écrire au gouvernement français pour dire qu'en livrant des djihadistes à l'Irak, où ils sont de toute façon promis à la peine de mort, je crois que l'Irak ne réserve la peine capitale, quoi qu'il en soit, au procès pour terrorisme, eh bien la France se met en porte-à-faux de ses obligations légales, tout autant écrites-elles que ses positions morales. Voilà. Évidemment, il faut rappeler que ce n'est pas par mansuétude ou dans une sorte d'esprit de pardon que cette demande est formulée, mais il ne s'agit pas de secourir des djihadistes, mais de mettre un point d'honneur à ce que justice soit faite.
Justice soit faite pour les victimes et, qu'également le droit soit appliqué aux prisonniers, le droit international dont est signataire des pays comme la France. Par exemple, il y a l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève qui exprime donc le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de torture ou alors que le droit à la vie soit respecté, qui, avec ce type de procédé, n'est pas, est bafoué.
Le gouvernement, lui, dit avoir œuvré à ce que ses ressortissants aient eu accès à un avocat et à la protection consulaire.
C'est ce qu'il écrit. Justement, ce que mettait en avant Agnès Callamard, la rapporteuse de l'ONU, c'était qu'elle n'avait pas eu vent, et officiellement, des assurances diplomatiques et également des assurances consulaires qui avaient été mises en place par la France. Et d'où un rapport là, qui est sorti le 24 octobre, où elle signifie justement ces dérives.
Et que vous avez publié dans Mediapart. Inès Daïf, où en est l'idée d'un tribunal pénal international que les Kurdes appelaient à mettre en place sur leur territoire quand ils en avaient encore plus ou moins le contrôle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui?
Alors, sur le plan des Kurdes, les Kurdes souhaitent encore mettre en place ce type de tribunal international. La problématique, c'est que pour mettre en place ce type de juridiction, il faudrait qu'ils aient une reconnaissance internationale par la communauté internationale et par la coalition, ce qui n'est pas le cas. Donc pour eux, c'est vrai que c'était un peu le dernier levier d'échange qu'ils avaient avec la coalition et avec la communauté internationale. À l'heure actuelle, au vu du conflit qui est en place, qui est totalement prégnant, et le fait qu'ils n'ont aucune reconnaissance, dans l'absolu, ça ne sera pas possible. En revanche, c'est vrai que certains gouvernements européens pensaient aussi à l'application d'un tribunal ad hoc en Irak, ou alors d'un tribunal hybride en Irak également. Mais alors là, on parle de procédés, de procédures qui peuvent mettre des années et des années à être appliquées, applicables.
Jean-Yves Le Drian parlait par exemple d'un mécanisme spécifique inspiré notamment de ce qui a été fait au Kosovo, et apparemment plusieurs juristes disent que ce serait trop compliqué à mettre en place.
Oui, c'est ça, ce serait trop compliqué aussi.
Pourquoi?
À la question. Alors, déjà parce que ça va mettre du temps, parce qu'il y a la question aussi des preuves, et ça parce qu'il n'y a pas. La question des preuves est très importante. Parce qu'il n'y a jamais eu de collecte internationalisée et de collecte recoupée de preuves, que ce soit du côté syrien que du côté irakien ou que du côté de la coalition. Et donc là, on arrive encore à une limitation pour la mise en place d'une justice internationale.
Et maintenant que cette zone du nord de la Syrie fait l'objet d'un accord entre Russes et Turcs qui ont posté des troupes un peu partout avec l'appui du gouvernement syrien, est-ce que ça rebat les cartes pour le transfert, le jugement des combattants djihadistes ?
Justement, je pense que ça va accélérer le transfert vers l'Irak de ces combattants.
Donc avec des transferts, cette fois, légaux, officiels, on va
Alors
dire.
Là, ce
Pas
sera...
légaux, mais officiels.
Alors là, la complexité sera de savoir quel est le statut des prisonniers, donc ressortissants français. Est-ce que ce sont des prisonniers de guerre ou est-ce que ce sont des combattants illégaux ? Et ça, ça sera jugé vis-à-vis du conflit, si c'est un conflit internationalisé ou non. Donc le terrain juridique reste encore très flou.
Dernière question, Inès Daïf, en juillet dernier, vous avez pu suivre un avocat français du barreau de Paris, oui. Maître Nabil Boudi, dans le camp dit de Roj, au Kurdistan syrien, camp où, écrivez-vous, sont parqués sous bonne garde les femmes et les enfants de Daesh, en tout 550 familles, oui. Dont certaines françaises. Qu'est-ce qu'il venait chercher dans ce camp ?
Alors, il venait chercher des informations sur ses propres clients qui étaient condamnés à mort, parce qu'il n'avait pas réussi à avoir accès à ses clients.
Il transféré pas... en début d'année.
En Irak, exactement, en Irak, et condamné à mort. Après, donc, de supputés procès inéquitables où lui-même en tant qu'avocat n'avait pas pu avoir accès. Et donc il recherchait, parce que le camp comprenait des femmes de ces djihadistes-là, des informations pour pouvoir continuer à travailler sur la question et également pour pouvoir rendre justice, pas que vis-à-vis de ces djihadistes-là, mais vis-à-vis des victimes à l'international et les victimes syriennes et irakiennes.
Et est-ce que vous pensez que dans ce camp, les femmes et les enfants étaient informés de la mort d'Al-Baghdadi ?
Alors à ce moment-là, non, parce que c'était en juillet. Et pour l'instant, toujours pas. Ceci est caché justement pour pas qu'il y ait d'insurrection interne.
Merci beaucoup Inès Daïf d'avoir été avec nous ce matin. Je mets en ligne sur le site des Enjeux internationaux tous les articles que vous avez écrits avec Stéphane Kenneck, notamment dans le Figaro, Mediapart et Le Parisien. Merci à vous.
Merci beaucoup.